Bonjour chers auditeurs, c'est Si vous voulez me prêter vos oreilles, avec Jasmine à l'animation et Stéphane à la technique. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'Au pays des hommes blancs, les mémoires d'un papou en Occident. C'est vous les blancs qui avez inventé les livres. Moi je ne sais ni lire ni écrire. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter sur votre drôle de tribu. Je m'appelle Mundia Peganga et je suis un papou de la tribu des Uli en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai eu la chance de voyager en Europe et d'observer vos coutumes étranges. Les femmes gratuites, les médicaments contre les enfants, la soupe de fromage. J'ai beaucoup de respect pour vos traditions, mais honnêtement, les hommes blancs sont vraiment des sauvages. La nourriture. Le vin. En Europe, et en particulier en France, les hommes blancs ne boivent pas d'eau. Ils ne consomment que du vin. C'est une sorte de bière douce, il en existe de toutes sortes, des vins rouges, des blancs, des roses, froids ou chauds, avec des bulles et sans bulles, très forts ou plus doux. Il existe même des vins différents pour le début, le milieu ou la fin du repas. Chez eux, cette bière douce remplace l'eau et au cours d'un seul repas, chaque personne est même autorisée à boire une bouteille d'un mètre de haut à elle toute seule. Je suis sûre que dans les veines des Français coule du vin rouge et qu'ils urinent du vin blanc. Mais le plus étonnant, c'est que j'ai rarement vu des blancs sous. Ils boivent tout le temps mais ne sont jamais ivres. Chez moi, à chaque fois que nous consommons de la bière, c'est pour nous saouler. L'alcool sert à ça. En Europe, c'est très mal vu et les blancs boivent avec beaucoup de sagesse. En général, les Français cachent leur vin sous terre, dans de très grosses caisses rondes appelées tonneaux. Ils doivent avoir peur qu'on leur vole. Un jour, en Bourgogne, nous sommes allés visiter une de ces grottes. Les blancs y pratiquent tout un rituel pour goûter le vin, un peu comme dans une cérémonie religieuse. D'abord, on doit regarder le liquide dans son verre. Je pense qu'il faut examiner s'il n'y a pas d'insectes ou de saletés dans le vin, parce qu'il a été conservé dans des barriques en bois. Ensuite, on met le vin dans sa bouche. On le fait tourner avec sa langue et on essaye de respirer en même temps. On dirait que les blancs se lavent la bouche avec le vin, parce qu'ils ne le boivent pas vraiment. Ils font semblant et recrachent tout. Ça, c'est vraiment incroyable. Après, il faut dire ce que l'on pense de ce vin. Les blancs utilisent beaucoup de mots différents pour en parler. Ils disent « celui-ci sent la banane »,« celui-là la noisette »,« celui-ci est en bas »,« celui-là en haut ». Il pique la gorge, il gratte le palais, il chatouille la langue. Cette coutume est vraiment étonnante. Ils peuvent parler du vin pendant des heures avant de le boire. Alors que nous, c'est l'inverse. On boit d'abord et c'est après que l'on n'arrête plus de parler. Le plus surprenant, c'est une habitude très délicate. Avant de boire, il faut toujours frapper les verres les uns contre les autres et dire « tchin tchin » en regardant droit dans les yeux. Il faut absolument se regarder dans les yeux, sinon il paraît que l'on ne peut plus faire l'amour. C'est une croyance vraiment inquiétante et j'ai préféré la respecter à la lettre pour ne pas la regretter. Les cannibales. À propos de nourriture, il y a une question vraiment très absurde que me posent toujours les Blancs. Est-ce que vous êtes cannibale ? Je ne comprends pas pourquoi ils me demandent ça. C'est vraiment très grossier. Il faudrait être complètement fou pour manger d'autres êtres humains. Les Blancs ne le savent-ils pas ? Autrefois dans mon pays, certaines tribus, comme celle des Kaklouli, étaient cannibales. Mais chez moi, nous ne l'avons jamais été. Rien que d'y penser, j'en ai la nausée. Des sueurs froides et le ventre qui se serre. Comme mes ancêtres, je pense qu'il faudrait être un sauvage pour manger de la viande humaine. Lorsque les Blancs me posent cette question, moi, pour les embarrasser, je leur demande toujours en retour « Et vous ? Est-ce que vos ancêtres étaient cannibales ?» Dans mon village, on dit que les Blancs mangent même leurs enfants.
Papa, oh,
L'école, le travail et l'argent. Le travail. Les Blancs n'arrêtent jamais de marcher, de parler et de travailler. Ils ne s'assoient jamais. Et je pense qu'ils doivent certainement utiliser un médicament pour ne pas dormir. Ils sont toujours occupés. Ils ne sont pas capables de rester assis comme nous. En Europe, les voitures, les bus, les trains fonctionnent sans cesse. Les hommes blancs sont tellement pressés qu'ils n'ont même pas le temps de se parler. Le matin, ils se disent « bonjour ». Mais le soir, lorsqu'ils rentrent du travail, ils ne veulent pas perdre une seconde et ne parlent à personne. Ils n'ont même plus le temps de dire bonsoir, car ils ne pensent qu'à rentrer chez eux. Lorsqu'ils vont au travail, ils marchent à toute vitesse comme des murucs, constipés. En réalité, ils ne marchent pas, ils courent. C'est formidable que les Blancs soient aussi actifs. Ils font beaucoup de choses en une seule journée et sont très efficaces. Mais nous, les Papous, ça nous tuerait de travailler comme ça. En France, à Paris, ceux qui n'ont pas de métier doivent vivre dans un endroit qui s'appelle le métro. Voilà pourquoi les hommes blancs courent. Parce qu'ils ont peur d'habiter sous terre. Ils pensent qu'il ne faut pas perdre de temps à discuter. Parce qu'ils risquent d'être en retard et d'être licenciés par leur patron. Les blancs courent du matin au soir pour gagner de l'argent. Ils savent que l'argent a des jambes et qu'il galope vite. Alors ils marchent à toute vitesse pour en attraper le plus possible. L'architecture et l'urbanisme. Les villes. Les villes. Chez les hommes blancs, les villes sont incroyables. Les immeubles touchent le ciel. Les maisons sont collées les unes aux autres. Parfois, la route s'enfonce sous terre et passe sous les immeubles. Au-dessous, il y a des milliers de voitures qui circulent et au-dessus, il y a une ville tellement grande qu'il faudrait plusieurs jours de marche pour la traverser. On peut s'y égarer comme dans une forêt. On dirait que les hommes blancs peuvent tout faire, tout construire. Des ponts immenses, des tunnels interminables, des maisons qui se perdent dans les nuages. C'est très impressionnant. La capitale de mon pays, Port Moresby, est aussi une grande ville avec des voitures et des buildings. Mais à côté des métropoles européennes, elle ressemble à un petit village. J'ai remarqué que dans les villes européennes, les hommes blancs dorment tous ensemble dans une seule case immense. C'est fou! Pour eux, ce n'est qu'une maison. Mais pour nous, c'est une maison-village qui peut contenir tous les habitants d'un seul village. Les inventions. Les voitures, les avions et les bateaux. La voiture est quelque chose de très important pour les Blancs. C'est aussi essentiel que boire ou manger. Si on ne mange pas et si on ne boit pas, on meurt. Eh bien, si les hommes blancs n'ont pas de voiture, ils meurent aussi. Sur la route, il y a tellement qu'on ne peut pas les compter. On dirait des insectes qui vont et viennent sans arrêt. En Europe, tout le monde doit avoir une voiture pour aller travailler, faire ses courses, rendre visite à ses amis. Lorsqu'un homme n'a pas de véhicule, la vie est très difficile pour lui. C'est comme s'il n'avait pas de jambes. Le problème des voitures, c'est que l'on doit payer l'essence et le droit d'utiliser des autoroutes, mais aussi régler une amende si on va trop vite, si on va trop doucement ou si on ne se gare pas sur les places autorisées. Il faut toujours payer, payer, payer. Chez les Blancs, le gouvernement a toujours un œil sur les chauffeurs. Chaque voiture a un numéro et si le conducteur fait des bêtises, la police peut le retrouver facilement. Mais cela ne le dérange pas, l'occidental, car il en a besoin. Sans voiture, on ne peut pas avoir de femme, on ne peut pas trouver de travail, on n'a pas d'amis, on n'est rien du tout. Les Blancs ont créé toutes sortes de moyens de transport pour faciliter le voyage. Ils trouvent que c'est pénible de marcher, alors ils ont inventé des machines pour se déplacer sans se fatiguer. Ils construisent des voitures pour circuler sur terre, mais aussi des bateaux pour traverser l'océan et des avions pour aller au bout du monde. Sans toutes ces inventions, je n'aurais jamais visité l'Europe et personne ne pourrait voyager ou se rencontrer. C'est vraiment très pratique. Pour tout cela, on peut vraiment remercier les hommes blancs. Les ordinateurs et les téléphones. Les blancs inventent toujours des machines astucieuses pour communiquer facilement. Tous ces outils leur rendent la vie beaucoup plus simple. Dans mon village, lorsque nous voulons poser une question à un ami, il faut aller le rencontrer. S'il habite à 2 jours de distance, il faut marcher 2 jours dans un sens pour lui parler et 2 jours de plus pour rentrer chez soi. En Europe, il suffit de l'appeler avec les téléphones qui les suivent partout. En 2 minutes, ils ont des réponses. C'est formidable, mais sans téléphone et sans Internet, il est très difficile de trouver une épouse. Pour se marier, les hommes doivent draguer les femmes en leur envoyant régulièrement des messages gentils. Si une fille vous donne son numéro de téléphone ou son adresse e-mail, cela veut dire que vous avez le droit d'essayer de la séduire. Les médicaments et la médecine. Les Blancs ont inventé des médicaments pour toutes les maladies. Je ne suis pas médecin, mais je crois qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il n'y a que 3 ou 4 maladies différentes. Le paludisme, le sida, la tuberculose et les infections. Et nous n'avons qu'un seul docteur pour tous les maux et toutes les parties du corps. En Europe, c'est vraiment différent. Ils ont des millions de maladies différentes et ils ont inventé des médicaments pour chacune d'entre elles. Et il y a des docteurs spéciaux pour la tête, les jambes, les pieds, les bras, les yeux, les seins, les cheveux, les ongles et même le sexe, m'a-t-on dit. Les médecins possèdent même des appareils photo pour voir à l'intérieur du corps. Ces inventions aident beaucoup de docteurs. Ils ont aussi créé de très nombreux outils afin d'aider les patients. Les béquilles, les fauteuils roulants, les masques pour respirer. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être malade chez les Blancs. Le complexe des hommes blancs. Vous ne pensez pas que nous prenons trop de médicaments? Vous ne croyez pas qu'il y a trop de voitures? Vous ne trouvez pas que les téléphones portables gâchent les relations humaines? Vous ne pensez pas que nous passons trop de temps devant les ordinateurs? Je ne comprends pas pourquoi les Blancs me posent toujours ce genre de questions. Ce sont les hommes blancs qui conçoivent toutes ces machines. Ce sont eux qui ont inventé les voitures et les embouteillages, les téléphones et les conversations à n'en plus finir. C'est à eux de se faire leur propre opinion sur leurs outils. S'ils ne les aiment pas, les Blancs n'ont qu'à ne pas les utiliser. Je suis un homme de la forêt. Demandez-moi donc le nom des oiseaux ou des arbres de la jungle. Je pourrai vous répondre. Ce n'est pas à moi de vous dire si les outils que vous inventez sont bons pour vous. Les tribus d'Europe. En Europe, il y a beaucoup de tribus et chacune a une culture distincte. Je crois qu'il en existe 30, mais je ne les ai pas toutes observées. Il y a des Français, des Belges, des Espagnols, des Suisses, des Autrichiens, des Allemands, des Italiens, des Anglais. Comme dans mon pays, chaque tribu parle une langue propre, possède des coutumes spéciales et se comporte de façon différente. Personnellement, je trouve que les Français sont très gentils, mais un peu prétentieux. Ils passent leur temps à placer leur nom au-dessus de celui des autres. Ils sont très fiers de leurs ancêtres. Ils ont toujours été généreux avec moi, mais j'ai remarqué qu'ils sont un peu arrogants. Leurs voisins, les Belges, me semblent un peu plus délicats. Ils parlent la même langue que les Français, mais je les trouve moins fiers. J'ai aussi observé une autre petite tribu en Suisse. Les hommes sont timides et s'expriment peu. S'ils ne font pas de bruit, ne parlent pas très fort et ne s'énervent jamais. Dans la rue, ils ne me dévisagent pas et m'abordent rarement, contrairement aux Français, qui ne se gênent pas pour venir m'accoster et me poser des questions. Ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que chez les Blancs, il y a aussi des Noirs. Lorsque je suis venue en Europe, je ne m'y attendais pas, mais j'ai vu beaucoup de Noirs à Paris et à Bruxelles. J'y ai aussi rencontré des Asiatiques et beaucoup d'autres étrangers. Je crois que tout le monde a envie d'habiter au pays des hommes blancs. parce que c'est très propre, bien organisé et qu'on y mange bien. Les cérémonies, les fêtes et les loisirs. Février, le carnaval de Binche. En Belgique, j'ai eu l'occasion d'assister à une cérémonie très insolite. À la fin de la période des neiges, la tribu du village de Binche organise une grande fête qui s'appelle carnaval. C'est un rituel magique pour chasser le froid qui a lieu à une date spéciale qu'ils nomment Mardi Gras. Ce jour-là, tout le village se rassemble et les hommes portent des bilas très impressionnantes. Ils enfilent de vieilles chaussures en bois, qui ne sont vraiment pas pratiques, et une grosse ceinture avec des cloches comme les vaches. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, lorsque nous portons nos parures et que nous participons à un grand sing-sing, nous devons respecter des règles très strictes. Il est interdit de dormir avec une femme la nuit précédente. Il faut que nous nous préparions à l'abri des regards et il ne faut pas manger lorsque nous dansons. En Belgique, j'ai découvert que les hommes du carnaval ne doivent aussi se respecter des règles précises. Il leur est défendu de se déplacer sans être suivi d'un joueur de tambour. Ils ne doivent pas non plus être sous ou s'asseoir en public. Je n'ai pas saisi le sens de toutes ces règles, mais je pense qu'elles sont très bien choisies. Les concepts. Le temps. Ce sont les Blancs qui ont inventé le temps. Toute leur vie est réglée par le temps. Il faut toujours arriver à l'heure du travail, partir à l'heure, revenir à l'heure, manger à l'heure. Lorsque les Blancs sont venus dans mon pays, ils ont apporté leur vision du temps. Mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres et tous ceux de ma lignée n'avaient pas l'habitude de compter les années. Ils comptaient seulement les lunes. Pour eux, l'apparition et la disparition d'une lune correspondaient à un cycle. Ce sont les Blancs qui ont inventé les jours, les semaines, les mois et les années. Pour eux, c'est très important. Pourquoi les hommes blancs mesurent-ils le temps? Je n'en ai aucune idée. Je crois que leurs ancêtres avaient l'habitude de compter les années, alors ils continuent de faire pareil. Les Blancs me demandent régulièrement mon âge, et cela me gêne toujours un peu, car je suis obligée de leur répondre « Je suis désolée, je ne le connais pas ». Je pense que j'ai environ 45 ans. Je dois avouer que lorsque j'ai demandé mon passeport pour venir en Europe la première fois, j'ai inventé ma date de naissance, le 10 juillet 1965. Maintenant, je fais semblant de croire que c'est ma date de naissance officielle. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'âge n'est pas aussi important qu'en Occident. Des amis blancs m'ont expliqué que pour séduire les filles, il faut toujours dire que l'on est plus jeune qu'en réalité. C'est vraiment étonnant, car chez moi, les femmes préfèrent se marier avec des hommes plus mûrs et plus âgés. En Europe, je crois que c'est le contraire. Elles préfèrent les hommes qui ne sont pas trop vieux. Alors il faut faire très attention lorsqu'on leur donne son âge, car en fonction du nombre d'années que l'on a, les filles décident de se marier avec toi ou pas. À présent, quand une fille me demande mon âge, je mens toujours en disant que j'ai 29 ans. Il paraît que c'est un très bon âge et que l'on a beaucoup de chances de se marier. Maintenant, je ne vais plus en changer. L'année prochaine, j'aurai 29 ans. Et les années suivantes, j'aurai toujours 29 ans. Le bonheur. Est-ce que j'ai trouvé le bonheur en Europe? Les Blancs me posent toujours cette question étrange. Il faut que je vous l'avoue que la première fois que quelqu'un m'a interrogé, je ne savais pas ce que c'était que le bonheur. Et puis, des amis me l'ont expliqué, et maintenant je réponds que moi, je ne l'ai jamais vu. À quoi ressemble le bonheur? Est-ce que le bonheur est un animal? Est-ce un objet? Si quelqu'un a du bonheur dans sa poche, qu'il me le montre, je n'en ai jamais vu, et je suis curieux d'en voir une fois dans ma vie. Les Blancs ont tout, de l'argent, des téléphones, des télévisions, des ordinateurs. Ils ont de belles maisons, ils font de bons repas, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors ils ont le temps de chercher ce qu'ils appellent le bonheur. Ils me posent la question comme si je vivais de la même manière qu'eux. Mais moi, je n'ai pas le temps de chercher le bonheur. Je survis. Je cherche du bois pour faire du feu, de l'eau et à manger. Lorsque je leur explique ça, les hommes blancs ont toujours l'air déçus. Ils me disent que chez eux, ils n'ont pas trouvé le bonheur, car ils ont des soucis avec l'argent, les voitures, les impôts. Et ils me disent toujours que chez moi, c'est formidable, car je n'ai pas tous ces problèmes avec l'argent, les voitures, les impôts. C'est curieux, ils parlent de mon pays comme s'ils l'avaient déjà visité. Mais les blancs qui me disent cela ne sont jamais venus chez moi. Ils n'ont jamais coupé du bois pour se chauffer et faire la cuisine. Ils n'ont jamais dû vivre en mangeant uniquement les produits de leur jardin. Ils n'ont jamais vu d'enfants mourir faute d'antibiotiques. Lorsqu'ils me disent que mon pays est un vrai paradis, je leur réponds « Venez donc chez moi, un ou deux mois. Habitez dans ma case. Travaillez dans mon jardin. Mangez des patates douces tous les jours. Après, vous pourrez dire que mon pays est un paradis. » Je pense que les Blancs ne pourraient pas survivre une semaine s'ils vivaient chez moi. Ils mourraient tant la vie est difficile. Si les Blancs pensent que le bonheur est chez moi, ils n'ont qu'à y vivre. Ils n'ont qu'à me donner leur argent, leur voiture, leur maison. Et moi, en échange, je leur donnerai mes terres, ma case et le bonheur. Retour à la case départ. En guise de conclusion, la question semble légitime. Qu'est-il advenu de Mundia après toutes ces pérégrinations? Ce kaléidoscope, d'aventure, a-t-il bouleversé sa conception du monde? Serait-il devenu aigri, envieux ou avide? Un beau jour, alors que nous marchions ensemble dans la forêt de Faripa, non loin de chez lui, je n'ai pu m'empêcher de demander à Mundia si tous ces périls de l'autre côté du monde avaient changé quelque chose à sa vie. Mais bien sûr, m'avait-il répondu avec étonnement, comme si la question était de loin la plus stupide qu'il ait entendue depuis des lustres. La première fois que j'ai quitté mon village, il y a 10 ans, et que je suis montée dans un avion pour venir en France, j'étais parée de mes plus belles plumes. À mon retour, 4 mois plus tard, j'ai pris soin de porter les mêmes parures pour rentrer chez moi et montrer à tout le monde que j'étais restée un nulli. Je suis et je serai toujours le même, mais à chaque voyage, j'apprends beaucoup de choses et je deviens un peu quelqu'un d'autre. Je suis et je serai toujours le même, mais à chaque voyage, j'apprends beaucoup de choses et je deviens un peu quelqu'un d'autre. Je ne sais pas vraiment ce que j'aurais aimé qu'il me réponde, mais j'ai trouvé sa réaction pleine de bon sens. Il faut être un sacré blanc-bec pour vouloir, espérer ou croire qu'après plusieurs mois à parcourir l'Europe, Mundia serait resté le même. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Et en espérant que ce petit voyage de papou sur nos terres parmi les blancs vous aura plu, fait sourire, je vous souhaite un heureux week-end. Merci.